Zigzag.
C'est le rendez-vous sinueux de Radio Okapi. Des chemins détournés et des infos dépistées, bah des tendances relouquées, c'est chaque samedi de 15h à 17h sur Radio Okapi.
Bien, le cancer du sein et de l'utérus sont les deux types de cancers beaucoup plus répandus parmi les femmes. Et certains les qualifient des tueurs silencieux. Ces maladies exigent une prise en charge spécifique et immédiate. Hein. La lourdeur de cette maladie implique des moyens techniques coûteux et importants. Souvent, bon nombre de malades décèdent parce que ces malades se présentent à l'hôpital à un stade très avancé de la maladie. Alors, comment assurer une bonne prise en charge du cancer du sein et du col de l'utérus? Nous avons dans ce studio Dr Soulou Maseba Mwang, président de la Ligue nationale contre les cancers. Docteur, encore une fois, bonjour.
Bonjour, M. Kachama.
Alors, dites-nous, comment assurer une bonne... D'abord, quelle est la situation du cancer du col et de l'utérus aujourd'hui dans notre pays?
Bien. Et quelle est la situation du cancer de l'utérus, le cancer du sein, ou carrément la situation du cancer dans notre pays?
Ok.
D'accord. Il faudrait dire que depuis les années 90, d'accord, 90, le cancer devient vraiment endémique dans la plupart des pays en développement. Donc, on a beaucoup plus de cas de cancer en pays en développement par rapport aux cas découverts en pays développés. Parce qu'au fait, nous avons changé nos modes de vie. Nous avons opté pour la vie, le mode de vie occidental, sans accomplir les autres paramètres que déjà maîtrisés par les Européens. D'accord? Donc, vous parliez du cancer du sein, vous parliez du cancer du col. Les deux sont, en fait, les facteurs qui les favorisent sont un peu différents. C'est qu'en termes du cancer du sein, il n'y a pas une bactérie, il n'y a pas un microbe jusqu'à aujourd'hui. On ne sait jamais, les recherches un autre jour, mais pour le moment, ce n'est pas un germe qui les favorise, un microbe. Le cancer du col, il y a donc là, disons, un rôle important d'un virus qu'on se transmet principalement par la voie sexuelle. Ce qu'on appelle, disons, le papilloma virus, sans lequel on ne l'a pas. En tout cas, en 90%, vous n'avez pas de papillomavirus, vous n'avez pas donc le cancer du col, sauf pour des rares cas, de rares pourcentages, peut-être inférieurs à 10%.
Alors, docteur Soulou, oui, on a l'impression que, je reviens tout de suite par rapport à la prise en charge, on a l'impression que ici en RDC, on n'est pas en mesure de prendre en charge les cas de cancer, parce que tout le temps, les malades sont référés ailleurs. On envoie les gens en Inde pour aller suivre les soins. Est-ce qu'aujourd'hui, en RDC, on est capable de prendre en charge des cas de cancer des seins ou des cols de l'utérus?
Bien. Donc, quand vous dites la prise en charge, parce que nous parlons à la population en général, nous parlons aussi à nos jeunes, nous qui sommes aînés avec barbe blanche et puis calvitie, donc nous parlons donc nous parlons bien à toutes ces personnes. Quand on parle de la prise en charge, donc on a diagnostiqué. Donc nous partons du diagnostic, n'est-ce pas? Nous parlons donc du diagnostic. Nous partons du diagnostic. Quand on a diagnostiqué un cancer, il faut donc également établir, donc savoir où est-ce que nous en sommes. Il y a un cancer, oui, mais où est-ce que nous en sommes exactement? Parce que c'est important. Quand vous dites, bon, ils vont à l'étranger, mais il faut d'abord savoir, est-ce que ça sert même à quelque chose d'aller à l'étranger ou pas? Vous comprenez bien?
Oui.
Parce qu'en fait, en termes du cancer, la prise en charge vise des objectifs qui sont des objectifs différents. Un premier objectif, c'est vraiment guérir ce cancer-là. Et effectivement, on peut tout à fait guérir du cancer pour certains cancers. Et nous parlerons dans quelques
conditions. Il semble que ça dépend du stade.
Bien sûr. Donc, ça dépend principalement d'abord du stade de la maladie, quand on la diagnostique, d'accord? Et puis, bien sûr, des compétences qui existent. D'accord? Des infrastructures qui existent, d'accord? Voilà.
Est-ce qu'on a des cancérologues dans ce pays?
Est-ce qu'il y a des cancérologues? Il faut que je dise oui, parce que chaque médecin spécialiste, n'est-ce pas, est au moins formé pour les cancers qui sont de son domaine. Donc, vous êtes gynécologue, au moins vous avez reçu en spécialisation, et même si vous n'êtes pas gynécologue, mais déjà le médecin généraliste, il a quand même été au courant, il a quand même été informé sur les cancers, donc en général. Et pour les médecins spécialistes, bien sûr, ils ont reçu une formation sur les cancers de leur spécialité. Bon, est-ce que maintenant il y a des cancérologues au Congo? Je peux bien dire oui, d'accord, de rares, donc qui n'ont été formés que spécialement pour le cancer, je peux dire oui, mais il faut dire que les compétences existent parce que les médecins spécialistes ont été formés pour, prendre en charge les cancers de leur spécialité. La prise en charge, aujourd'hui, ce n'est plus une seule personne qui est un seul médecin, quelles que soient les compétences qu'il puisse avoir. Donc, c'est en fait.
Plusieurs médecins qui travaillent ensemble.
Mais tout à fait, donc, c'est une prise en charge intégrée. Voilà. Donc, c'est ça.
Je reviens à vous dans quelques instants, le temps d'accueillir Célestin. Je disais tout à l'heure à Dr Soulou qu'on a l'impression qu'ici sur place, on n'arrive pas à prendre en charge des cas parce qu'on réfère tout le temps les malades en Inde. Alors, au niveau de votre association internationale de lutte contre les cancers, à RDC aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est fait par rapport à la prise en charge des cas de cancer?
Merci beaucoup pour m'avoir encore donné une fois l'opportunité d'éclaircir la population à ce qui concerne les actions que nous menons à ce qui concerne la lutte contre les cancers en République démocratique du Congo. Et sinon, le président, Dr Soulou, a tout dit. Et il est mieux placé que moi parce que lui, il est aussi dans l'aspect, en même temps, dans l'aspect technique et dans l'aspect santé publique. Okay. Donc, moi, je suis plus focalisé dans la santé publique, gestion des projets, tout ça. Mmh. Donc, si je peux répondre à votre question, nous sommes là dans le cadre de la sensibilisation de la population, renforcement des capacités et orienter les malades vers les structures sanitaires spécialisées. Mmh. Et à ce qui concerne notre association qu'on venait de dire, nous orientons quand même les malades vers les structures spécialisées partenaires à notre organisation. Et ce que nous déplorons, à ce qui concerne, parce que nous parlons ici de la prise en charge, ce que nous déplorons, c'est quoi? Si avec moi ici, j'ai des statistiques des malades référés à l'extérieur, précisément.
En Inde particulièrement.
En Inde, oui, parce que nous sommes en étroite collaboration avec une structure dont je garde l'anonymat ici. C'est une structure indienne focalisée dans la prise en charge des cancérés. Si je suis venu ici m'associer au Dr Soulou aujourd'hui, parce que l'émission d'aujourd'hui concerne précisément la prise en charge liée au cancer, c'est pour peut-être partager aussi à ce que l'expérience que nous avons à ce qui concerne l'orientation des malades. Sinon, pour être bref, je peux peut-être vous dire par exemple, selon nos sources, on a eu à publier un rapport il n'y a pas longtemps et on a eu à constater dans notre population, au sein de notre population, 70% de la population, d'abord il faut savoir que 70% de la population est pauvre selon les estimations, selon EDES 2009, et l'impact de ça c'est quoi? Et l'impact de ça, la majorité de la population des victimes n'ont pas accès à la prise en charge des qualités.
Il semble que les traitements coûtent cher.
Pas du tout. Ça ne coûte pas du tout cher parce qu'on va vous parler suffisamment de notre partenariat que nous sommes en train d'envisager avec une structure que je garde à l'UNIMA ici à Kinshasa pour orienter les malades parce que c'est la seule structure que nous on a trouvé la meilleure structure pour traiter.
Alors combien de cas de cancer sont référés en Inde par exemple?
Je pense que d'ici là on va vous envoyer les rapports sur les malades référés, mais sinon avec moi on a totalisé au courant de du mois de novembre 2012 à mai 2013. Par exemple, à l'est de la République, on a eu à référer une affaire de 52 cas en Inde. Et dans la ville de Kinshasa, 37 cas de cancer confondus. À Lubumbashi, on a eu à référer une affaire de 10 cas. Donc au total, c'est...
Pour cette année
Donc de l'intervalle de temps entre novembre 2012 et mai 2013.
Ok.
Ouais. Donc, s'il vous plaît, des cancers confondus. Mais les cancers les plus fréquents ici, c'est les cancers du col de l'utérus suivis des cancers du sein.
Alors, docteur Soulou, je vais vous donner la parole tout à l'heure. Le temps d'accueillir un auditeur, Junior Bambou, qui nous appelle de Béni. Bonjour, Junior.
Bonjour, Josie, bonjour, député.
Quelle est votre question?
Oui, je me posais quelques questions à l'invité, premièrement concernant le cancer du sein.
Oui.
Il a parlé qu'il n'y a pas de cause précise pour le cancer. Bon, je voulais savoir le facteur de risque pour le cancer du sein.
Facteur de risque pour le cancer du sein. Merci. Patient Moulekelaï de Kananga, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute.
Oui, d'abord, je voulais me présenter en disant que c'est patient Moulekelaï, je suis infirmier à Zapo. Hein.
Ok.
Et tant que je vous parle, nous venons d'abord de perdre notre IT qui s'appelait Léonie Bichilualo, qui était toujours à Zapo, suite d'un cancer du col. Alors, je voulais savoir pourquoi le gouvernement ne veut pas organiser un peu des structures, parmi les structures, soit des gens qui pourraient, soit les médecins qui pourraient un peu prendre sérieux, parce que je vois que ça commence à être sérieux. Aujourd'hui, je pourrais même dire qu'il est mieux soit d'atteindre les cas que...
Oui, patient. Patient, vous dites que vous êtes infirmier, vous venez de perdre un collègue qui est mort du cancer, une dame qui est morte du cancer du col de l'utérus. Est-ce qu'elle a suivi, elle avait suivi les traitements sur place? Comment ça s'est passé?
Bon, nous sommes dans la zone de santé de Demba. Ben, elle a voulu se faire opérer à Lukonga, là où il y avait toujours l'organisme sans roue qui nous prenne en charge. Mmh. Alors, et tout ce temps, elle d'abord ne nous parlait pas qu'elle était malade, mais elle nous parlait tout simplement qu'il y avait des pertes, hein, des pertes hémorragiques. Alors c'est quand elle est allée à Lukonga où on l'avait constaté un néo du col. Alors il fallait l'opération comme c'était au début, mais quand elle est partie, pourquoi ne pas revenir.
Oui, après l'opération, elle est décédée.
Elle est décédée comme ça. Alors c'est la raison pour laquelle je voulais un peu demander, c'est que nos structures sanitaires, on organise un peu des gens qui pourraient même un peu prendre cette maladie en considération parce que ça commence maintenant à tuer. Vous savez même ma voix, on est en train de pleurnicher ici à Zapo et on ne travaille même pas. Donc, c'est presque ce que je pourrais me présenter.
Nos condoléances aux patients pour ce malheur qui vient d'arriver. Alors, docteur Soul, vous avez suivi la
préoccupation des
auditeurs.
J'ai suivi leurs préoccupations. Le premier dit, mais en fait, cancer du sein, et le deuxième parle du cancer du col. Les facteurs de risque pour le cancer du sein, bien sûr que 10% environ, hein, c'est en fait lié au fait que de votre famille, vous avez reçu, disons, des mutations, donc vous avez reçu, vous avez hérité, disons, de vos parents, un facteur de risque, donc une modification de votre génétique, donc qui fera qu'il y aura une transmission de ces facteurs de risque, tels que en famille, s'il y a une tante, s'il y a eu une grand-mère qui est morte de cancer, disons qu'il y a eu un cancer avant l'âge de 50 ans, il faut quand même bien s'en préoccuper. Mais ce n'est pas vraiment ça ce qui prime dans le cancer du sein. Dans le cancer du sein, surtout en Afrique, ici on voit que disons c'est beaucoup de gènes, disons 40 ans, 45, disons 50. Donc en fait on a un cancer en ce moment-là. C'est principalement l'exposition à certains facteurs. Donc c'est l'environnement en fait.
Maintenant venons-en à ce cas de Kananga.
On revient d'abord au Kananga.
Oui, pour cette dame qui est morte du cancer du col de l'utérus.
Bien.
Alors après l'opération, est-ce qu'on peut dire que l'opération
réussit
toujours?
Hein, on ne peut pas voir les choses comme ça.
Quel est le meilleur traitement, docteur?
Non. Les choses doivent être vues de cette manière-ci. C'est que en Afrique, il y aura dans notre pays, il y aura encore de morts et encore toujours de morts. Hein, par cancer. Pour la raison principale qui est celle-ci, le niveau de prise de conscience qui est très faible. La population, c'est quand en fait ça lui arrive, quand c'est déjà dramatique. C'est pour ça qu'au début de l'émission, nous avons tenu à dire, attention, quand vous parlez du cancer et surtout de la prise en charge, il faut déjà dès au départ savoir est-ce qu'il faut se déplacer ou il ne faut pas se déplacer, même si je suis vraiment contre le déplacement en Inde, parce que ce n'est pas une fierté nationale. En fait, en plus, c'est une médecine business, ou qui enrichit, disons, ceux qui transfèrent ces malades, donc c'est de l'argent.
Et il semble que certains médecins ont pris l'habitude d'envoyer les gens parce qu'ils ont des pourcentages.
Tout à fait. Il faut que ça soit dit ça. C'est les malades souvent qui sont dupés. Je préfère encore insister là-dessus. C'est des malades qui sont dupés. Aller en Inde avec un cancer, dont vous-même médecin, vous savez très bien que rien ne sera fait. Qu'ils partent, disons, ou que ça soit, vous savez très bien que ce n'est pas possible. Vous dites, allez, partez, vite un transfert.
Alors, à quel moment du cancer faut-il référer le malade ailleurs? Parce qu'il y a des stades, on parle du stade 1, 2, 3, 4, docteur.
Est-ce qu'au Congo, est-ce qu'on peut prendre en charge des cancers? Moi, je dis encore une fois, oui. Il existe, je ne peux pas dire que c'est suffisant parce que un seul, par exemple, équipement de radiothérapie, ça ne peut pas être suffisant pour prendre en charge tous. Mais cet équipement de radiothérapie qui existe, mais il est sous-utilisé.
On l'a ici au
Congo. Mais bien sûr, tout à fait.
Où exactement?
Mais je ne suis pas là, disons, pour dire où. Mais il faut d'abord que je dise une chose. La première chose, il faut une prise de conscience de la population, d'accord? Que le cancer existe effectivement, pour qu'il y ait plus d'innocents hein, que des sorciers. Parce que celui de Kananga, après, il va dire, écoutez, c'est un sorcier qui a tué. Alors que nous n'avons pas de conscience que le cancer, c'est une maladie qui existe, que c'est une maladie grave, c'est une maladie dont on peut guérir.
Dont on ne parle pas souvent.
Mais tout à fait, c'est pour ça que, mais qui tue effectivement le cancer, il n'y a pas d'autre chemin que la mort si on ne se fait pas soigner.
Alors,
si
docteur diagnostic... Solo, quel est le traitement approprié du cancer, par exemple, de ça?
Le traitement approprié, la première chose, le meilleur de traitement, ce n'est pas de l'avoir, ce n'est pas avoir le cancer, d'accord?
Okay, okay.
Donc, je voudrais dire donc de la prévention, prendre des mesures pour que vous ne puissiez pas y arriver, donc avec des accouchements très tard, des rapports très, nous parlons du cancer du sein, n'est-ce pas?
Oui.
Donc, vous avez des règles, disons, alors que vous êtes encore très jeune, 10 ans, etc. Et puis après, vous allez avoir une grossesse beaucoup plus tard, avec une ménopause beaucoup plus tard, ça signifie que le facteur le plus important, c'est l'exposition aux estrogènes, d'accord? Vous allaitez pendant très peu de temps et c'est fini, et tout cela donc, et puis l'obésité, et puis en plus vous prenez de l'alcool, vous fumez,
et tout ça, c'est au niveau de la prévention.
C'est de la prévention. Donc,
alors,
quand on a à l'esprit que le cancer du sein existe et qu'il y a des attitudes, disons, à prendre ou à éviter, et disons, on peut déjà être... Maintenant, quand le cancer existe, il faut le savoir avant. Pour le savoir, c'est d'abord un auto... Que la population ait... J'insiste là-dessus. Ait l'idée en tête, la présence d'esprit que le cancer existe et peut les atteindre. D'accord? Alors, la première chose, c'est l'auto-examen. Chaque femme doit avoir l'habitude, peut voir, disons, un infirmier, un médecin, et on peut apprendre à chaque femme l'autopalpation, l'auto-examen de sein,
oui,
pour que l'examen du sein, c'est toujours une boule. L'examen du médecin, et en fait, les examens complémentaires, dont radiothérapie, excusez-moi, je voulais dire mammographie, échographie. Oui. Donc, il faut d'abord que le cancer soit dépisté à temps.
Alors, docteur, à quel moment la chimiothérapie intervient? À quel moment la radiothérapie intervient également?
Bien. La première chose, c'est quand on a diagnostiqué le cancer, on doit savoir, est-ce qu'on va y aller pour les soins curatifs, ça signifie pour en guérir? Parce que ça dépend du stade auquel vous arrivez. C'est pour ça que nous insistons, ne perdez pas le temps quand vous avez une petite boule, un petit nodule dans votre sein, mais d'abord avoir l'habitude d'aller se présenter chez le médecin, de se faire l'auto-examen. Alors, quand le médecin a posé le diagnostic, d'accord, lui dira, ça suffit, c'est vraiment au départ, on va seulement faire la chirurgie. D'accord?
Oui.
Quand vous arrivez à un autre stade, le médecin va dire, oh oui, ça, on doit combiner à la chirurgie parce que le traitement principal, c'est d'abord l'opération, la chirurgie. Mais au stade précoce, bien sûr. Et après, le médecin dira, non, je vais opérer, mais je vais ajouter, disons, à l'intervention, la radiothérapie,
chimiothérapie.
Mais la chimiothérapie qui sont des médicaments, vous comprenez très bien.
Oh, okay.
Mais comme le médecin peut vous dire, écoutez, vous êtes venu en retard, hein, je ne sais plus rien faire, sauf des soins palliatifs, parce que la prise en charge commence par les soins pour éventuellement guérir, mais sinon alors c'est des soins palliatifs, ça signifie diminuer la douleur si on saigne, donc essayer de prendre en charge toutes les malaises hein, qui peuvent exister.
Si c'est déjà
tous les malaises
avancé, donc il n'y a plus rien à espérer.
Il n'y a plus rien à espérer, mais il faut quand même bien mourir dignement, accompagner la famille, donc ça va donc, disons, des soins aux malades pour qu'ils meurent dignement, on le sait, mais également essayer de compatir, essayer de prendre en charge la famille du point de vue psychologique. Voilà un peu ce que c'est la prise en charge.
Comment assurer une bonne prise en charge du cancer du sein et du col de l'utérus? Nous avons en ligne Roger Tchaba de Kananga et Nadine de Kinshasa.
C'est parce que Radio Okapi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission. habitants de toutes les provinces, Parole aux auditeurs est votre émission. Chaque jour de 11h à midi, heure de Kinshasa, le mercredi de 10h à 11h, vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter le soir à 20h et sur internet, radiokapi.net.
Comment assurer une bonne prise en charge du cancer du sein, du col de l'utérus? Roger Tchaba, vous nous appelez de Kananga, bonjour.
Bonjour, je dis Daniel Kachama.
On vous écoute.
Bonjour à tous les invités, bonjour à tous les auteurs de la radio Kate.
On vous écoute, Roger.
Ok, mais j'ai trois questions à poser à nos invités.
Oui.
La première question est de savoir quelles sont les nourritures alimentaires qui sont appropriées à cette maladie dont la personne est victime. Et la deuxième préoccupation, la mère qui est atteinte de cette maladie, et elle est pendant la période de gestation. Lorsqu'elle enfantera un enfant, cet enfant sera aussi victime de cette maladie. Et quels sont les conseils qui peuvent nous aider à fortifier d'autres personnes qui sont malades, qui sont aussi victimes à cette maladie?
Merci. Merci. Nadine, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, monsieur.
On vous écoute.
Oui, j'ai deux petites questions à poser au docteur. Je voulais qu'il m'éclaircisse un peu sur le cancer de l'utérus. Il avait parlé de modes de contamination, comment on peut l'avoir. Mais je voulais, en plus, qu'il me dise qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas l'avoir. Et si on est déjà atteint, comment on va savoir qu'on a le cancer de l'utérus? Et puis, je voulais demander à l'autre invité s'il peut nous indiquer l'adresse ou le numéro de contact pour, enfin, entrer en contact avec eux pour se dépister, je ne sais pas, pour faire des examens.
Bien, merci. Avant de donner la parole à Dr. Soulou Kachonga, vous avez suivi sa deuxième question. Oui. Les numéros, l'adresse pour entrer en contact avec l'ONG ASICAS.
Oui, merci. L'ONG ASICAS est en étroite collaboration avec la LINAC. Nous avons un même bureau.
La Ligue nationale,
la Ligue nationale
les
contre les cancers, dont le siège de la LINAC et de la ASICAS se trouve à la galerie Albert, sixième niveau. Si vous venez là-bas, vous aurez peut-être d'emblée précisions ou informations.
Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone?
Oui, il y a un numéro, le 09-91-36-51-74. Je répète, 09-91-36-51-74.
Voilà. Et il y a une question de Roger par rapport à la famille de malades. Il y a déjà quelqu'un qui est malade dans la famille. Comment faire pour fortifier la famille et tout ça? Vous faites également ce travail-là?
Oui, au fait, nous accompagnons aussi les malades, hein, parce que une fois, nous avons aussi parmi les membres de nos équipes, nous avons aussi des acteurs qu'on les appelle des psychologues, hein, pour accompagner les malades dans ce sens-là. Parce que chez nous, en République démocratique du Congo, en général, en Afrique, les cancers, c'est un tabou, hein, c'est un tabou, ça nécessite un accompagnement là, et nous avons des gens pour accompagner tous ces gens-là. Et pour les sortir dans les stress qui les...
Alors, docteur Soulou, Roger Tchaba, il pose la question par rapport à l'alimentation, la nourriture, et puis il parle de la mère qui souffre du cancer. Est-ce que son bébé également est exposé?
Bien, pour vite dire, bébé exposé quand la mère a un cancer du col ou le cancer du sein, non, donc on balaye cette question-là. Oui. Nourriture, disons en fait de nourriture. Les jeunes, pour les enfants, c'est bon de protéines, c'est bon de sucre, c'est bon de tout ce qu'il faut, c'est bon. Mais pour un adulte, il faut, disons, faire très attention à ce qu'on prend. En fait, en termes du cancer du sein, comme le cancer en général, le tabac, surtout pas. Pas de tabac, il ne faut pas fumer. Quand vous fumez, vous prenez le tabac tue déjà environ la moitié de ceux qui le consomment. Donc ça c'est comme ça, par le cancer. Donc il faut éviter le tabagisme, ce n'est pas une bonne chose, principalement en ce qui concerne le cancer du sein d'ailleurs. Donc autre chose, ce que nous devons dire en termes du tabac, c'est du cancer, nous avons dit pas de tabac, mais en fait pas d'alcool ou au moins une consommation modérée, parce qu'on ne peut pas dire, bon écoutez, tout le monde, plus jamais d'alcool. On doit dire pas de tabac, consommation modérée d'alcool. Mmh. Mais alors, maintenant, légumes, ça ne sert à rien de manger gras. Gras. Tout ça également intervient, l'obésité, la prise de poids, tout ça intervient dans le cancer du sein, en plus de l'exposition aux estrogènes, aux hormones, hein, comme je venais de le dire tout à l'heure.
Nadine de Kinshasa dit, que faire pour ne pas avoir les cancers de l'utérus? Et d'ailleurs, on a parlé des signes, par exemple, le monsieur qui a appelé de Kananga a parlé des pertes blanches, des pertes hémorragiques, la soeur qui est décédée dernièrement.
À des stades avancés, la malade va finalement avoir des écoulements, de pertes des liquides, ça peut être du sang, ça peut être de liquide comme des urines, ça peut être des pertes blanches.
Mais on a l'impression que le cancer du col est difficile à détecter, on dirait.
Le cancer de l'utérus est le cancer le plus facile, disons, parmi les cancers, ça fait partie des cancers le plus facile à détecter et le plus facile à soigner. Normalement, on ne devrait même pas en mourir, en fait, le cancer du col, parce qu'à partir du moment où vous n'avez rien, votre col est normal, jusqu'au moment où vous allez avoir des premières transformations des cellules, donc disons du col, jusqu'au moment où vous allez avoir un véritable cancer du col, ça prend environ 10 ans. Ça prend environ 10 ans avant que ça ne devienne réellement un cancer.
Donc, le problème, c'est que vous n'avez pas de douleur, rien du tout, ça se fait en silence.
Mais c'est pour ça que, disons, ce qu'il faut, et le ministère est en train de s'y atteler avec avec ses partenaires OMS.
On n'a même pas un programme, une stratégie nationale de lutte contre les cancers.
Non, on ne peut pas dire comme ça qu'on n'a pas eu. Nous devons réfléchir en termes de on va avoir, vous comprenez bien, ce qui n'a pas été fait hier va être fait demain. Et c'est comme ça que nous allons aller donc de l'avant. Aujourd'hui, au niveau du ministère, en fait, le problème va être résolu petit à petit, bien sûr. Rome n'a pas été, disons, construit en un seul jour, pas du tout. Nous devons avoir un espoir parce que, je prends au mot le ministre de la Santé, qui lui a dit, l'éventualité est certainement le grand espoir, et moi j'y crois, et je le crois, donc d'avoir un centre national de lutte contre le cancer. Donc il va y avoir un centre national de lutte contre le cancer et des centres provinciaux de lutte contre le cancer. Oui. Et c'est comme ça que nous allons en plus par ces centres, par tout cela. Donc, la première chose, c'est, je dis bien, la prise de conscience.
Docteur Foulou, je reviens à vous dans quelques instants. Le temps d'accueillir 3 auditeurs. Lauriane nous appelle de Kikwit, James Paloukou de Beni et Jacques Moulunga de Kalima. Lauriane, bonjour.
Bonjour Jolika Chama, bonjour à l'invité. J'ai 2 questions à poser par rapport au sujet du jour.
Oui.
Oui, la première question est celle de savoir si vous fréquentez régulièrement un fumeur ou vous vivez avec un fumeur, vous êtes exposé au même risque du cancer parce qu'on dit que le fumeur passif est le plus exposé. Est-ce que cela vraiment influe parmi les causes du cancer? Et la deuxième question est celle de savoir pourquoi est-ce qu'on n'organise pas des campagnes vulgarisées où on invite les femmes à venir faire un dépistage? Parce que vraiment, il commence à avoir de plus en plus de cas et ça devient
inquiétant.
Inquiétant, voilà, merci. Ça devient inquiétant. C'est les 2 questions que j'avais à poser à l'invité d'aujourd'hui.
Merci, Lauriane. James Paloukou de Beni, on est qui vous. Bonjour.
Bonjour.
Quelle est votre question, James? Bonjour.
Alors, bonjour à l'invité, bonjour à l'équipe de la radio Okapi. Ah, ici, c'est James qui a parti de Beni.
Allez-y rapidement, la question.
J'ai une petite question préoccupante. En tout cas, la question est de savoir le lieu où peut se situer le cancer incurable et le cancer incurable.
Vous voulez savoir s'il existe un cancer curable et incurable?
J'aimerais savoir le lieu où peut se situer le cancer qui ne peut pas guérir.
Voilà la partie du corps où on peut retrouver un cancer curable ou non curable. Voilà. Merci. Jacques Moulunga et Takalima, bonjour.
Oui, bonjour Radio Okapi. Je voudrais donner un correctif. C'est Jacques Moulungu. J'appelle la partie de Kindu. C'est pas Kalima.
Jacques Moulungu de Kindu. On vous écoute.
Oui. Bonjour journaliste. Bonjour l'invité. J'ai bien suivi l'invité, les interventions. Je vous informe d'abord que je suis un infirmier de formation.
Oui.
Mais quelque part, l'invité nous a dit qu'au Congo, il y a des structures qui peuvent prendre en charge les cas de cancer. Moi, j'aimerais que l'invité puisse nous dire où se trouvent ces structures-là qui regorgent au moins les paquets complets de prise en charge d'un cas de cancer où on peut retrouver la chimiothérapie, la radiothérapie et la chirurgie appropriée pour le cas de cancer.
Merci.
Parce qu'il nous a dit qu'il y a des structures qui peuvent prendre réellement les cas de cancer. Et la deuxième question, c'est, nous savons que le pays a des politiques. Il y a beaucoup de programmes où on dit qu'il y a une politique sanitaire. Je voudrais que l'invité nous dise au moins quelle est la politique sanitaire et prise en charge des cas de cancer, parce que c'est vraiment une maladie qui décime la population. Et nous voudrions vraiment être informés de la politique nationale de notre pays par rapport à la prise en charge des cas de cancer. Parce que c'est... Le plus souvent, nous voyons que tous les cas qui sont concernés arrivent toujours à un décès.
Oui.
Et enfin, il a dit aussi que la prise en charge n'est pas tellement coûteuse. Il y a pas tellement les soins coûteux. Mais je voudrais qu'il nous dise au moins quel est le coût moyen d'un cas de cancer une fois que le patient est référé à l'Inde. Parce qu'il a dit qu'il y a des partenaires, il y a des structures partenaires où on réfère les cas en Inde. Quel est le coût moyen? Parce que faudrait que nous qui sommes peut-être dans des provinces où on n'est pas à Kinshasa, si on a un cas de cancer, qu'on sache au moins combien ça peut coûter une fois qu'on est transféré pour aller poursuivre les traitements à l'étranger.
Merci.
Merci, c'est ça là, les trois interventions.
Merci Jacques. On commence avec la question des Lorient de Kikuit, docteur Soulou. Si vous vivez avec un fumeur, est-ce que vous êtes exposé, les fumeurs passifs? Et puis il dit, pourquoi ne pas organiser des campagnes de dépistage?
Bien, je voudrais d'abord, finir la réponse pour celui qui a dit qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas avoir le cancer du col. C'est en fait la même chose que dans le sida. Donc, parce que le facteur le plus important dans le cancer du col, c'est une infection, le papillomavirus, sans lequel vous n'avez pas 90% de malchance d'avoir le cancer. Donc, c'est en fait, vous protéger en cas de rapport sexuel qui risque de vous contaminer. Donc, c'est sinon de l'abstinence, sinon c'est de la fidélité. Donc, ce sont les mêmes mesures préservatives si jamais vous avez un rapport. Donc, c'est ça, pour éviter la contamination. Là, ça, c'est important. Là, maintenant, au sujet du tabagisme passif, il est nocif, effectivement. Donc, ne restez pas enfumé. N'acceptez pas d'être enfumé. Peut-être que celui qui fume est plus résistant que vous, d'accord? Qu'il a une immunité, une protection, une immunité, comme nous disons, beaucoup plus importante que vous. Donc, vous risquez d'avoir un cancer, alors que celui qui vous enfume ne l'a pas. Donc, voilà. Il ne faut pas... Donc, c'est important donc de se protéger contre le tabagisme.
Alors, par rapport aux campagnes de dépistage de cancer des seins, par exemple.
En fait, il a bien compris le problème. Le problème, c'est que si nous devons éviter vraiment le cancer, c'est de la prévention, c'est le dépistage. Donc, le dépistage local, principalement le dépistage collectif, un dépistage organisé. Petit à petit, nous sommes en train d'avancer dans notre pays, petit à petit, mais faute du dépistage organisé, donc au moins faire un dépistage soi-même, voir au moins les structures pour pouvoir se faire dépister. Mais sinon, en réalité, c'est d'abord la première chose, c'est la prise de conscience que le cancer existe, qu'il peut nous tuer et qu'on peut en guérir moyennant un diagnostic précoce. Et le diagnostic précoce veut dire dépistage sans lequel on ne sait pas le savoir au stade précoce.
James Debeni veut savoir, est-ce qu'il y a un lieu, une partie du corps où on peut retrouver un cancer curable et un autre lieu du corps où il y a un cancer incurable?
En fait, il faut dire que ce n'est pas un problème de lieu, même si effectivement certains cancers peuvent être sur un site assez difficile, par exemple comme au niveau du cerveau, mais la plupart de cancers, la règle en fait c'est le diagnostic précoce. Quand nous disons les cancers qui deviennent incurables, c'est par rapport à leur évolution, donc on fait le diagnostic déjà très tard. C'est en fait ça, ce sont ces cancers-là qui ne bénéficieront que des soins d'accompagnement, en fait, ce qu'on appelle les soins palliatifs.
Voilà. Alors, Célestin, est-ce qu'il y a une question de Jacques. Où se trouvent les structures de prise en charge? Est-ce qu'on peut dire qu'on peut prendre en charge les cas de cancer ici à RDC? Est-ce qu'il y a l'équipement qu'il faut?
Oui, merci. C'est Jacques qui a appelé
du Maniema. Oui, voilà.
Merci. À ce concerne, je ne maîtrise pas très bien les Maniema, mais ce que je peux lui dire, en République démocratique du Congo, quand même, il y a des structures appropriées pour la prise en charge liées aux malades de cancer dans notre pays. Donc, nous, ici, nous sommes là dans le cadre, je ne sais pas si le docteur Soulou va me contredire, nous sommes là dans le cadre de décourager la pratique de référer les cas vers l'expertise clinique étrangère. Donc, il faut savoir, M. Jacques doit savoir une chose, la prise en charge liée au cancer, ça ne nécessite pas qu'il y ait un seul praticien. Donc, il y a, comme la fois passée, le docteur Soulou a dit, il y a celui qui est placé pour la radiothérapie, la chimiothérapie, la chirurgie, mais au niveau, je ne pense pas qu'au niveau du Maniema, il peut y avoir des bons chirurgiens. Il peut y avoir aussi des gens qui font la chimiothérapie. Mais à ce qui concerne dans notre pays, à ce qui concerne par exemple, on doit d'abord
la radiothérapie.
Dire la vérité. Il faut qu'on dise la vérité parce que je suis vraiment expérimenté à ce qui concerne les malades qui vont à l'extérieur.
Qui vont en Inde particulièrement.
Oui, particulièrement. Pour votre information, je suis le point focal d'une structure de renommée internationale, Shemer, en Israël. Donc je suis leur point focal au niveau de la RDC pour l'orientation des victimes vers les structures là. Mais maintenant, je n'envoie pas les malades pour ne pas me contredire de ce que je suis en train de dire tout à l'heure ici.
Oui.
Mais tout à l'heure, je peux vous montrer même le protocole d'accord qui me lie avec ces structures là. Mais à ce qui concerne la prise en charge, par exemple, ce que nos malades vont chercher à l'extérieur, c'est quoi? Tout d'abord, c'est la radiothérapie. Il faut qu'on se le dise vrai. Parce que la chimiothérapie, on fait ça localement ici au niveau
ça s'est fait localement.
Localement.
Alors est-ce qu'on a un appareil des appareils de radiothérapie ici, localement?
Bien sûr.
Où exactement? Allez-y
tout droit. Le problème de la radiothérapie.
Oui.
Au pays, nous avons qu'une seule structure qui possède la radiothérapie. Donc, permettez-moi de citer le nom.
Oui.
L'hôpital Centre Nganda ici à Kinshasa.
Il y a un appareil de radiothérapie.
Des renommées internationales avec des spécialistes
qui fonctionnent très bien.
Très bien, qui nous viennent de l'extérieur, précisément de la Belgique pour respecter cette structure,
cet appareil. Oui.
Mais à ce qui concerne le problème que nous avons, qu'on peut soulever ici, c'est le problème maintenant de disponibilité de molécules, des anticancéreux.
Oui.
Parce que je peux vous dire, permettez-moi, les anticancéreux, par exemple en Europe, il y a 18%.
Oui.
Donc,
Célestin, on a plus de temps. Le temps, on aura l'occasion d'y revenir. Docteur Soulou, on va terminer avec vous rapidement. En quelques mots, le coût de la prise en charge. Il semble que ça coûte trop cher, la prise en charge du cancer. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cet auditeur-là?
Disons qu'il faut, en fait, il y a des compétences dans les grands hôpitaux ici, des bons chirurgiens qui peuvent opérer le cancer. Il y a dans nos grands hôpitaux des médecins qui peuvent administrer la chimiothérapie. Et il y a, même si c'est peu, même si ce n'est pas bien significatif, nous avons quand même bien, mais ça coûte beaucoup moins. Nous avons quand même bien un équipement de radiothérapie ici. Les médecins existent, la chirurgie est possible dans la plupart d'hôpitaux, mais ça coûte moins cher que tout transfert à l'étranger, en Inde, etc., qui est une médecine business, s'il vous plaît.
D'accord.
Et fierté nationale, nous devions nous battre pour que nous puissions soigner, parce qu'en fait, il n'y a que certains privilégiés.
Docteur Soulou, merci.
En
Inde, c'est pas tout le monde. Oui.
Et toute la population, nous devons faire tout chez nous et avoir la fierté nationale pour que notre Congo, que nous sentions congolais, fiers, avec
Docteur
des choses
Soulou,
qui se font ici pour tous. Merci bien.
Merci, Docteur Soulou, président de la Ligue nationale contre le cancer, et merci à Célestin. À la prochaine.
Au Capé. We'll be right back.